Europe 1. Europe 1, on de la traconte.
La première scène de cette histoire se joue à Heilbronn, en Allemagne, en avril 2007. Je vous situe Heilbronn sur une carte. C'est une ville de 120 000 habitants, à environ 100 km de Strasbourg, dans le Land du Bas de Württemberg. Nous sommes donc le 25 avril 2007, et il est 14h. Et un jeune cycliste traverse le parking au bord du fleuve Neckar. C'est un grand parking, on est en train d'y monter une foire. Et il est intrigué par une voiture de police, une BMW verte et blanche, garée à l'ombre d'un petit bâtiment, en briques rouges. Le policier a l'air de dormir, il a la tête collée contre la vitre. Et la portière côté passager est grande ouverte. Alors il s'approche et il comprend. Le policier qui semblait dormir est une policière. Elle est inconsciente et elle a la tête en sang. Et au pied de la portière ouverte, gît un autre policier, blessé à la tête, inconscient lui aussi. Le cycliste se précipite vers la station de taxi la plus proche et il appelle le 110, le numéro de la police. Il est 14h12, la police arrive 5 minutes plus tard, suivie par une ambulance. Pour la policière, il n'y a plus rien à faire. Elle est morte. Elle avait 22 ans, elle s'appelait Michelle Kaiswetter. Mais pour son collègue, il y a un petit espoir. Il respire encore et il est évacué par hélicoptère. Il s'appelle Martin Arnold, il a 25 ans. Une heure après, le chef de la brigade criminelle, la Kripo, débarque sur le parking. Vous savez, c'est un moment terrible dans une vie de flic. Tous ceux qui sont là n'oublieront jamais. C'était deux collègues. Les balisticiens, les spécialistes des armes et des coups de feu, établissent tout de suite que les deux policiers ont été visés par des armes différentes. Deux armes, donc deux tueurs. Et qu'est-ce que cette voiture de police faisait là, sur ce parking? A priori, les deux policiers se sont garés là pour leur pause déjeuner, une pizza et un hamburger. Ils ont été surpris pendant leur repas. Ah, détail important, il manque les armes, les deux armes des policiers, et leur chargeur, et une paire de menottes. Une heure après la découverte des corps, toute la ville est bouclée, personne ne rentre, personne ne sort. La police contrôle des centaines de voitures, 1400 au total. Sans résultat. Mais alors pourquoi? Quel est le mobile? Pourquoi ces deux flics ont-ils été visés? C'est le policier Frank Huber qui va devoir répondre à la question. On lui colle sous ses ordres 50 enquêteurs à plein temps. En Allemagne comme en France, on ne rigole pas avec les tueurs de flics. Est-ce que l'un ou l'autre des deux policiers ont été exposés ces derniers temps? Réponse, oui. Michelle Kaiswetter était récemment en mission d'infiltration dans les milieux de la drogue de Heilbronn. Elle s'est faite passer pour une junkie de bonne famille et grâce à elle, un gros dealer est en prison. Et tout un trafic d'héroïne a été démantelé. Ça fait un sacré mobile, ça. Et puis on s'aperçoit que le matin même, avec son collègue, elle a croisé un dealer sur les boulevards. Et elle l'a obligé à déguerpir. Il a peut-être voulu se venger. Mais ce dealer, on le retrouve, il a un alibi en béton. À part ça, est-ce que quelqu'un a vu ou entendu quelque chose? Deux personnes ont vu un homme en train de s'enfuir. Il portait une chemise blanche tachée de sang. D'autres l'ont vu se réfugier dans un immeuble de bureau et d'autres encore dans un cimetière. On cherche partout. Cet homme, on ne le trouve pas. On compte beaucoup, évidemment, sur le policier blessé. Martin Arnold. Pendant 3 semaines, il est dans le coma et quand il se réveille, il est amnésique. Il ne se souvient de rien. mais cette enquête va faire un bond avec le rapport de la police scientifique. Les experts ont passé la BMW au peigne fin et ils ont trouvé, sur le tableau de bord, une goutte de salive. Une toute petite goutte. Et ce qu'il y a de bien avec la salive, c'est que c'est un piège à ADN. Ils ont le profil génétique de l'un des tueurs. Et ils ont beaucoup mieux que ça. Cet ADN, ils l'ont passé au fichier. Il a matché avec un autre ADN, qui est dans ce fichier depuis 14 ans. On l'a retrouvé sur 28 scènes de crime, dont 2 meurtres. Cet ADN, c'est le cauchemar de la police allemande. Il n'a pas encore de nom, mais il a un petit nom, Das Phantom. Le fantôme. Et cet ADN, c'est l'ADN d'une femme. Le fantôme est donc de retour. Sacrée nouvelle. La première fois qu'il a frappé, c'était en 1993, à 50 km du Luxembourg, en Rhénanie-Palatinat. Une dame de 62 ans, Lotti Schlinger, retrouvée morte chez elle, sa robe relevée, étranglée avec du fil de fer. D'après le légiste à l'époque, elle a suffoqué pendant plusieurs minutes. Ça a été long, ça a été cruel. Et comme les voisins n'ont rien entendu, et qu'elle a dû se débattre et crier forcément, on a pensé à l'époque que le tueur avait un complice. Le mobile ? L'argent, sans doute. Son appartement a été retourné et elle était passée à la banque la veille. On lui a tout volé. Une voisine avait décrit un homme grand, corpulent, avec une grosse mallette. Grâce à elle, on a dressé un portrait robot, diffusé dans les journaux et à la télévision. Et sur une tasse à café, la police scientifique avait isolé de la salive. En 1993, c'était les balbutiements de l'ADN. Mais les experts avaient tout de même réussi à isoler 2 ADN. Un ADN de femme et un ADN d'homme. On n'a jamais su qui avait tué la pauvre Lotti. Mais le fantôme vient de réapparaître à Heilbronn. Je vous ai raconté comment le fantôme a commis son premier meurtre, la retraitée Lotti Schlinger, en 1993. Après ça, il se tient à carreau pendant 8 ans et il réapparaît en 2001 à Fribourg, à 40 km de Mulhouse. En mars, on retrouve un retraité, Joseph Walsenbach, mort dans son studio de vieux garçon. Il a été frappé à la tête avec un objet pointu et finalement étranglé avec 3 ceintures qu'on retrouve serrées autour de son cou. C'est un ancien menuisier qui mettait du beurre dans les épinards en faisant des brocantes, un peu rustique, assez négligé et qui avait fait de la prison pour pédophilie. Et là encore, on se dit qu'ils étaient 2. Ils ont volé 230 euros, le prix de sa vie. Et les gars de la scientifique trouvent dans le fatras de son studio des gouttes de sueur. Autre piège à ADN. Ça fait transpirer sans doute de tuer, d'étrangler. Et dans les gouttes de sueur, le labo isole l'ADN d'un homme et celui d'une femme. Vous connaissez la suite, il les passe au fichier et il tombe sur l'ADN du fantôme et de son complice, le tuo qui a déjà tué Lotti Schlinger. C'est à partir de là que le chef de la cellule de profilage de la police, Klaus Appel, commence à se demander si on n'a pas affaire à un tueur en série. Il fait dresser la liste de tous les meurtres de personnes âgées commis ces 12 dernières années dans le sud de l'Allemagne. 56. Il y en a eu 56, 5 par an. Est-ce que le fantôme serait l'auteur de ces 56 meurtres ? C'est une hypothèse. Et pour l'instant, ça n'est qu'une hypothèse. Et à cet instant, on en reste à 2 meurtres. Avec un point fort pour l'enquête, on a les ADN des 2 tueurs. Et l'ADN, on ne l'utilise pas que dans les affaires de meurtre. La police, aujourd'hui, l'utilise dans toutes les affaires, pour des cambriolages, pour des vols de voitures. Et c'est comme ça qu'au fil de cette enquête, le fantôme va réapparaître, non pas pour des crimes, mais pour des délits, qui vont donner lieu à des relevés ADN et venir enrichir le dossier du fantôme. Par exemple, c'est par l'ADN qu'on apprend fin 2001 que le fantôme, la fantôme, est accro à l'héroïne. Ça commence par un gamin qui se pique en ramassant des châtaignes dans une forêt. Il a marché sur une seringue, abandonnée, là. Le gamin finit aux urgences et la seringue au laboratoire de la police. La drogue, c'était bien de l'héroïne. Et le labo a trouvé un ADN. On le passe au fichier et vous devinez la suite, le fantôme se shoot. Voilà la suite. Car bien sûr, c'est l'ADN du fantôme. Donc la tueuse de retraités est héroïnomane. Et ça éclaire tout. Elle a besoin d'argent. L'héroïne, ça ne pardonne pas. Il faut de l'argent tous les jours. Et de plus en plus. Et ça explique la suite. Ce moment où l'ADN du fantôme apparaît dans toute une ribambelle de cambriolage. On trouve son ADN sur un biscuit dans un cabanon dévalisé en octobre 2002, sur la fenêtre d'un bureau, cambriolé en janvier 2003, et sur un pistolet à billes après le braquage d'un couple de bijoutiers en France, dans le Jura. Eh oui, le fantôme a traversé la frontière. Elle leur a pris 3000 euros. Et c'est pas fini. En octobre 2004, Das Phantom passe en Autriche, dans le Tyrol. Elle se spécialise alors dans le cambriolage de cabanons de jardin. Et si elle tombe sur une bière, ben elle la boit. Et si elle tombe sur des vêtements en bon état, elle les enfile et elle abandonne les siens. Elle laisse de l'ADN partout. Quelques mois plus tard, toujours en Autriche, elle change de braquet. Elle se lance dans le casse de supermarchés, de bureaux, d'hôtels, de restaurants et de concessionnaires automobiles. Et à chaque fois, on retrouve son ADN. Le temps passe. Et en mars 2006, le patron de la police fédérale sonne la fin de la partie. Ça ne peut plus durer. Il est décidé de réunir la crème de la crème des criminologues, des experts psychiatres et des policiers. À eux de déterminer le profil de la fantôme. Et là, ça y est, on est dans la logique du tueur en série. Et voilà ce qu'il conclut au bout de 6 jours de travail. La plupart du temps, elle n'agit pas seule. Mais parfois, oui. Elle est agile, intelligente, déterminée et froide. Elle sème une foule d'indices derrière elle, comme pour narguer les enquêteurs. Elle s'en prend à des retraités, mais aussi à des entreprises, à des bijoutiers, à des cabanons de jardin, ça dépend. Elle n'a pas de victime type. Elle se shoot à l'héroïne et elle porte des survêtements. Et elle aime la bière et les biscuits. Elle est peut-être SDF, elle utilise toutes sortes d'armes, du fil de fer, des lacets de cuir, des pistolets en plastique et de vrais gros calibres. Et comme tout ça paraît assez incohérent, les psys se disent que ça masque un dessein caché. Elle vole. Mais en vérité, ce qui la motive, c'est autre chose. Et les psys pensent que cette autre chose est sexuelle. Et quand vous connaîtrez la fin de cette histoire, vous ferez comme moi, vous ne croirez plus à la criminologie, science molle. Dans la foulée de ce séminaire, en octobre 2006, il se passe quelque chose de stupéfiant. Dans une entreprise de Sarrebruck, à 5 km de la frontière française côté allemand, un cambrioleur, les témoins sont formels, hein, c'était un homme. Un cambrioleur casse une vitre avec une grosse pierre et tente de s'introduire dans les locaux. Et puis il y a du monde, il prend peur et il s'enfuit. Et la police envoie la pierre au labo. Et dessus on trouve l'ADN d'une femme. Et c'est l'ADN d'As Phantom. Sauf que les témoins jurent que c'était un homme, jeune. Entre 20 et 30 ans, un physique athlétique, 1m70 à 1m80, musclé, large d'épaule, européen, brun, les cheveux courts, lisses, une petite barbichette au menton et une banane à la ceinture. Et il était seul. Et là, vous avez compris qu'il y a un truc qui ne colle pas. Ce jeune homme baraqué n'a rien à voir avec une fantômette. Ou alors c'est une femme qui se fait passer pour un homme. Ou alors, c'est un hermaphrodite. C'est sérieux, la police en parle à l'époque. Cet homme dont l'ADN serait féminin parce qu'il aurait un chromosome X en trop. Ça existe. On en est à débattre du sexe du fantôme quand en avril 2007, sur le parking de la fête foraine de Heilbronn, on retrouve donc la policière Michelle Kaiswetter, morte, et son collègue Martin Arnold, grièvement blessé. Le fantôme a de nouveau tué. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'on va l'appeler le fantôme de Heilbronn. Surtout, ne manquez pas la fin de l'histoire. Elle est à mourir de rire. En 2007, quand Das Phantom réapparaît à Heilbronn et tue la policière Michelle Kaiswetter, la presse parle de la plus incroyable énigme criminelle de l'histoire de l'Allemagne. 30 policiers travaillent à plein temps sur cette enquête, encadrés par 4 hauts commissaires, avec des correspondants à Interpol pour faire remonter les méfaits du fantôme en Autriche, en Pologne, en Russie, en Roumanie, en Turquie et en France. La police offre une récompense de 150 000 euros pour tout renseignement qui lui permettra d'arrêter le fantôme. Et c'est à ce moment-là que l'ADN du fantôme apparaît dans une ténébreuse affaire d'espionnage. Le 10 février 2008, la police de Francfort arrête un Irakien nommé Talib. Elle le soupçonne d'avoir éliminé d'une balle dans la tête 3 Géorgiens mêlés avec lui à un trafic de voitures. Il les aurait transportés dans une Ford Escort blanche. Et dans cette Ford Escort, on retrouve l'ADN du fantôme de Heilbronn. Et là, il y a un gros problème. Un énorme problème. Talib, Irakien, c'était un indique. Il travaillait pour la police et la Ford Escort appartient à la police. Et il était censé fournir des informations sur un réseau islamiste affilié à Al-Qaïda. Alors que vient faire l'ADN du fantôme dans tout ça? Interrogé, Talib jure qu'il n'a jamais transporté aucune femme dans sa voiture. Et c'est un mystère de plus. Mais pas le temps de s'attarder, car fin 2008, nouveau meurtre.
Ça fait 38 fois et 15 ans qu'une mystérieuse tueuse allemande échappe à la police. Et voilà que celle qu'on appelle la tueuse sans visage a encore frappé. On a retrouvé, Hélène Kohl, son ADN près du cadavre d'une infirmière.
Oui, pour l'instant, aucune preuve formelle de son implication directe dans cet assassinat. Mais la tueuse est passée par là.
L'infirmière est retrouvée morte dans un bois, la tête dans une flaque d'eau. La cause de la mort est inconnue. Le bois se situe à proximité d'un parking qui est un lieu de rencontre connu où des couples se retrouvent pour roucouler en toute discrétion. Et l'ADN du fantôme est retrouvé dans la voiture de la victime. Et là encore, la police est dans le Schwartz. Angela Merkel elle-même demande que la police fédérale prenne cette enquête en main. Mais comme le disait Albert Einstein, on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Ça n'est pas la police allemande qui va résoudre l'énigme du fantôme. C'est la police autrichienne qui va avancer le premier pion. Car elle a trouvé l'ADN du fantôme sur les doigts d'un jeune Serbe tué au cours d'une bagarre à la sortie d'une boîte de nuit. Or, il n'y avait que des hommes dans cette bagarre, pas une femme. Et la police autrichienne formule alors une hypothèse. Et si l'ADN féminin n'était pas sur le doigt du jeune Serbe, mais sur le coton-tige qui a servi à faire le prélèvement? Normalement, les cotons-tiges qui servent à prélever de l'ADN sont parfaitement stériles. Ils sont vierges. Et si on avait affaire à un coton-tige contaminé? Cette hypothèse, les Autrichiens en font part aux Allemands qui ne veulent pas l'entendre. Le porte-parole de la police du Bade-Wurtemberg dit « Rien, rien ne démontre formellement à ce jour que quelque élément extérieur soit venu fausser les résultats des analyses génétiques. Rien !» Mais c'est pour gagner du temps. Car en parallèle, le ministère de l'Intérieur a lancé une enquête discrète sur la fiabilité des cotons-tiges qui servent à faire les prélèvements d'ADN. Et l'hebdomadaire Der Spiegel finit par l'apprendre et dans la foulée, deux journaux locaux de Heilbronn titrent « Le fantôme de Heilbronn existe-t-il vraiment ?» Et c'est un coup de tonnerre.
C'était l'ennemi public numéro 1, sa traque mobilisait à plein temps une centaine d'enquêteurs, d'autant plus motivés que le meurtre d'une policière de 22 ans était mis sur le compte de celle que les médias ici ont surnommé le fantôme de Heilbronn, accusée de 3 meurtres et d'une dizaine de cambriolages. Mais le mystère s'épaississait au fil de son parcours criminel, son ADN était retrouvé sur un biscuit dans un cabanon de jardin. Un témoin disait avoir vu un homme avec une barbe. Autant d'invraisemblances qui ont mis la puce à l'oreille des policiers et mené à la clé de l'énigme, selon le magazine Stern, l'empreinte correspond en fait à celui d'une employée d'une entreprise pharmaceutique, une dame sans histoire chargée d'empaqueter les cotons-tiges ensuite livrés à la police allemande. Or, suite à une erreur de manipulation ou à une négligence, ces cotons-tiges, utilisés pour les prélèvements ADN, ont été mal stérilisés et c'est comme ça que la même empreinte s'est retrouvée sur plusieurs scènes de crime. La thèse, relayée par tous les médias allemands, n'est pas encore confirmée officiellement. La police a du mal à avouer qu'elle a couru toutes ces années derrière un vrai fantôme.
L'ADN de la criminelle la plus recherchée d'Allemagne appartient à une employée de l'usine qui fabrique et vend les kits de prélèvement ADN dans toute l'Europe. Quel dénouement et quelle gifle pour la police allemande! Et maintenant on comprend tout. Par exemple, pourquoi on trouvait l'ADN d'une femme alors qu'on avait vu un homme? On comprend pourquoi le fantôme avait l'air tantôt d'un amateur et tantôt d'un pro. Pourquoi il était à la fois une tueuse et un détrousseur de cabanons de jardin. Les mésaventures de la police allemande font se marrer le monde entier. Et le scandale est énorme. Il fait vaciller toute la hiérarchie policière du Bade-Wurtemberg, mais aussi la police fédérale et jusqu'au ministre. Seize ans d'enquête, 30 enquêteurs à plein temps, des centaines de policiers mobilisés dans plusieurs pays, 17 000 heures de travail, 3 700 tests ADN, des centaines de milliers d'euros engloutis, tout ça pour faire se marrer toute la planète. C'est un fiasco. Et Ulrich Goll, le ministre de la Justice, se désole. Les enquêteurs n'y sont pour rien. Ils ne pouvaient pas savoir que les bâtonnets étaient contaminés. Mais cette affaire pénible signifie que nous devons reprendre les enquêtes depuis le départ. Eh oui. Du coup, qui a tué Michelle Kaiswetter, la jeune policière de Heilbronn? Nous ne repartons pas de zéro, hein. Nous avons des pistes, dit le chef d'enquête. Des pistes. Ils vont surtout avoir de la chance. Le 8 novembre 2011, une femme se présente au commissariat d'Iéna, en Thuringe, à l'est de l'Allemagne. « Je suis celle que vous recherchez. » Les policiers sont interloqués.
« Papier, bitte ?»
Elle s'appelle Beate. Elle a 36 ans et c'est une militante néo-nazie. 4 jours plus tôt, elle a attaqué une banque avec 2 complices, des néo-nazis, eux aussi. Et ça s'est terminé en fiasco. Le braquage a mal tourné, les 2 complices se sont suicidés. Et dans l'une de leurs planques, on a trouvé 2 pistolets de marque Éclair et Cor, l'arme qui a tué la policière. Et on a trouvé aussi un jean avec une tache de sang dont on a tiré un ADN. Et cet ADN, c'est celui de Michelle Kaiswetter. Elle a été tuée par des néo-nazis. Voilà la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et on est très, très, très loin du fantôme. Si vous voulez entrer plus profondément dans cette affaire rocambolesque, je vous invite à lire le livre dont je me suis inspiré pour vous raconter cette histoire, « L'affaire du fantôme de Heilbronn » de Michel Ferracci-Pori aux éditions Normand.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.